conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Comme vous le savez, j'aime les personnes plurielles, multiples. Effectivement, c'est la richesse de notre profession. Nous, notre profession, les architectes, les urbanistes. Évidemment, je ne reçois pas que des personnes de ma profession. Mais là, j'ai vraiment, et je suis ravie de recevoir Alban Simonet, qui est le directeur, le gérant, le créateur de l'agence Alcyone. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Alors, d'abord, il faut m'expliquer ce nom. J'avoue que je ne connaissais point. Et puis, on va parler un petit peu de votre actualité, de votre travail, parce qu'effectivement, j'ai découvert quelques pépites sur votre site.
Ah, alors l'origine du nom est un peu rigolote. C'est le nom déjà d'une déesse grecque.
Bon, alors je me sens tout à fait à l'aise.
Voilà, et c'est un surnom qui m'a été donné en école d'architecture, qui est la contraction en fait de mon prénom et de mon nom de famille. Et pour une raison qui m'est totalement inconnue, c'est transformé en Alcyone en première année d'architecture et j'ai gardé.
Et donc vous avez gardé.
Voilà, j'ai gardé ce surnom tout au long de mon école d'archi. Et comme je n'avais pas de velléité à donner mon propre nom à mon agence, j'ai pris mon surnom.
Voilà, alors ce point-là est extrêmement important parce qu'effectivement, les architectes qui sont dans votre démarche, c'est-à-dire d'être à quatre et à plusieurs, d'avoir une agence, je dirais, protéiforme, n'ont pas la nécessité de tout centraliser sur leur nom. C'est ça un peu l'idée ?
C'est tout à fait ça l'idée. On a une agence, effectivement, qui aujourd'hui, on tourne entre 5 et 6, mais qui est un noyau dur de 3 personnes, 4 à l'ouverture de l'agence par la suite. Et voilà, je n'ai pas créé l'agence sur mon nom, mais j'ai créé l'agence sur la particularité de chacun de mes collaborateurs et associés pour pouvoir la développer.
C'est-à-dire que chacun des collaborateurs et associés sont plutôt orientés logement, locaux d'activité, équipement, c'est un peu de cette manière-là que vous fonctionnez ?
Exactement.
Et alors, comment trouve-t-on les marchés ? Comment on arrive à avoir sur le site de l'agence, je dirais, un site extrêmement dynamique, vivant, avec effectivement des réalisations à Paris, banlieue, en province, un peu, quel est votre ADN hein ?
On prend son bâton de pèlerin et on fait le commercial pour essayer de récupérer des projets et expliquer qu'on a cette capacité à pouvoir traiter plusieurs programmes. Éviter de rester engoncé dans une seule catégorisation architecturale, qui est une chose auquel je me refuse. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai pris soin de développer le plus de programmes possible, de manière à ne pas rester coincé dans une seule typologie.
Alors, comment on arrive à travailler effectivement, surtout avec le milieu industriel et des locaux d'activité ou des usines, etc. Parce que j'ai cru comprendre et j'ai cru voir effectivement quelques belles réalisations. C'est quand même un milieu assez fermé.
Oui, c'est un milieu extrêmement fermé et on a eu un énorme coup de chance.
Alors, racontez-moi. Racontez aux auditeurs surtout.
Racontez aux auditeurs. On a eu un énorme, coup de chance. À une époque où je n'avais pas monté l'agence, je travaillais pour Roger Taillibert, architecte un peu tombé dans l'oubli malheureusement, mais homme de grand talent, fondateur du Parc des Princes. On a eu la joie de travailler au Qatar et par ce biais-là, j'ai rencontré un bureau d'études qui à l'époque s'appelait Technip TPS, qui aujourd'hui est WSP, et en particulier une personne à qui on doit énormément l'agence, qui s'appelle François Guibertig, avec lequel on a travaillé, qui nous a rappelé une fois que l'agence a été créée pour aller travailler encore sur les Émirats, sur des projets industriels. Et à partir de là, il nous a mis le pied à l'étrier. On a continué avec cette personne tout au long des années à développer de l'industriel. Et on continue encore aujourd'hui à le faire.
Ah oui, donc effectivement, c'est un biais particulier. Alors, je vais rebondir un peu sur Taillibert, parce qu'effectivement, il y a le Parc des Princes, mais il y a aussi, pour les Jeux de Montréal, les tremplins de saut à ski. Enfin, c'est un endroit mythique. Vous avez retenu quoi de cette expérience à l'agence Taillibert hein ? Un petit retour en arrière, rapide.
Hein ? Un retour en arrière, j'y ai passé 5 ans entre 2002 et 2007. Ça a été très certainement l'une des plus expériences les plus intéressantes. J'ai pu travailler sur des choses assez extraordinaires. Des projets qu'on ne voit pas ici, essentiellement à l'étranger. On a eu la capacité de travailler sur le campus Aspire au Qatar, qui est aujourd'hui là-bas derrière du PSG, qui est le plus grand stade couvert de la planète, 110 000 mètres carrés. On a créé l'hôtel intercontinental de Doha, qui est une petite tour d'environ 240 mètres. On a les laboratoires Pierre Fabre sur les sites, l'ancien site AZF à Toulouse. Donc j'ai eu la possibilité de travailler sur des projets absolument fabuleux. Voilà, et il m'a appris énormément de choses sur le métier d'architecte à faire et aussi à ne pas faire, d'ailleurs.
Est-ce qu'on tire toujours, des recettes, entre guillemets, de ces expériences-là qui datent quand même un peu, alors que le métier, l'évolution du métier, fait qu'on s'oriente vers d'autres manières de travailler? Est-ce que c'est toujours d'actualité?
Oui, on a appris à travailler vite.
D'accord. Bon, ce qui est essentiel maintenant.
Ce qui est aujourd'hui essentiel. On a eu cette possibilité, on avait des projets à gérer de l'ordre de 40-50 000 mètres carrés à sortir en 15 jours en esquisse. Donc j'avais une équipe dont j'ai récupéré une personne qui travaille aujourd'hui avec moi, Philippe. On avait eu cette capacité à travailler très vite et à développer très vite de très gros projets. On a conservé ça.
Alors, est-ce que aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution de notre métier justement avec tout ce qui est informatique, digital? La plupart des architectes oublient ce qui est la relation, je dirais, entre le cerveau et la main. L'évolution dans 20 ans, c'est quoi?
Alors nous, on se refuse à oublier cette évolution entre le cerveau et la main. Quelqu'un qui ne sait pas dessiner à l'agence, c'est quelqu'un qui ne travaillera pas. Voilà. Mais alors après, c'est purement financier. C'est-à-dire que pour tracer un trait à la main, ça prend 10 fois moins de temps que pour le tracer à l'informatique. Donc en l'occurrence, ça me coûte 10 fois moins cher. C'est très terre à terre. Donc ça nous permet de faire les esquisses plus vite. Mais voilà, ça nous permet aussi de concentrer notre pensée à la création architecturale et de ne pas laisser la machine réfléchir à notre place ou de ne pas se donner les limites de la machine sur la création architecturale. Après, c'est un outil fabuleux, l'informatique, mais voilà, il faut savoir l'utiliser correctement et à bon escient.
Alors, correctement à bon escient, ça veut dire que potentiellement, ces quatre associés font les esquisses à la main et donnent à des personnes qui font la production informatique ou gèrent différemment les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas la même personne qui fait l'esquisse et qui fait la production informatique?
Si, c'est la même personne.
C'est la même personne. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même la relation du cerveau à la main puis au clavier.
Oui.
Alors, de quelle manière travailler à l'international, vous pensez toujours développer cet atout que vous avez eu depuis fort longtemps et qui aujourd'hui, est gage peut-être d'une certaine notoriété? Est-ce que vous en avez envie?
Moi, j'en ai profondément envie. Après, travailler à l'international, c'est toujours un peu compliqué. On continue à essayer de travailler, on continue en industrie, en tout cas à le faire. On aimerait développer d'autres programmes à l'international. Je m'y évertue, mais c'est un travail de longue haleine. Je pense que ça me prendra encore un petit peu de temps.
L'Asie, un petit peu.
L'Asie, mais un petit peu. L'Afrique aussi, on a eu quelques touches de ce coin-là. En Amérique aussi.
Alors, est-ce qu'on travaille différemment, justement, quand on travaille à l'international? Est-ce que les process, les relations avec les bureaux d'études, avec, les clients, sont vraiment extrêmement différents de nos vieilles habitudes françaises, hein?
Non, c'est toujours de la relation humaine. L'acte de construire, c'est toujours un profond engagement humain. Et là-dessus, même si la culture locale n'est pas toujours tout à fait la même, néanmoins, il y a toujours ce dialogue qui se fait avec le client, avec les bureaux d'études, qui reste profondément humain, donc profondément universel. Donc on arrive à avancer.
Alors, je vais revenir peut-être un petit peu plus dans notre cercle franco-français. Il y a très peu, un ou deux jours, le congrès USH HLM. Vous développez aussi des projets de logement, que ce soit en social, en accession, en direct, en VFA. Comment voyez-vous l'évolution du logement aujourd'hui en Île-de-France?
Nous, on suit la tendance des promoteurs, surtout.
Là, c'est quoi la tendance des promoteurs, hein? C'est vraisemblable, c'est beaucoup de VFA?
C'est beaucoup de VFA, c'est beaucoup de diffus. C'est beaucoup de travail à réorganiser l'espace construit aujourd'hui, en tout cas moi je le ressens comme ça. à éviter l'étalement urbain, le développement urbain. À essayer
ça, ce n'est pas spécialement les promoteurs. C'est un peu dans l'air du temps,
c'est un peu dans
développement
l'air du
durable
temps.
Et faire attention à notre petite planète. Hein.
Tout à fait. Mais je trouve qu'il y a, eu une prise de conscience ces dernières années. Et aujourd'hui, nous, on travaille de plus en plus sur ce type de programme-là. En tout cas, on apprécie de le faire.
Et alors, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une identité architecturale française, hein, surtout dans le logement, où est-ce qu'on fait du répétitas de concours, en réalisation? Il y a une mode?
Une question piège.
Non, mais c'est juste parce qu'effectivement, on voit dans les revues d'archi, enfin, je ne sais pas si les revues existent toujours, mais sur les sites, différentes manières, je dirais, de voir un peu notre production architecturale. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut sortir de ce mimétisme?
Oui, moi je trouve que mimétisme, c'est beaucoup dire. On a aujourd'hui de toute façon des règles de construction en logement qui sont tellement contraintes qu'au final, on arrive sur des produits qui effectivement sont un peu identiques. Maintenant, on essaye de sortir très fortement de développer d'autres caractères architecturaux plus contextuels, plus agréables. Enfin, on essaie d'aller vers ce type de logement.
Et est-ce que vous travaillez avec le bois, qui est quand même maintenant une ressource fortement recherchée dans le milieu du bâtiment?
Alors oui, on a rendu des logements liés à un collège dernièrement avec un parement bois, que les gens apprécient grandement d'ailleurs. Et on nous a demandé, la semaine dernière, de commencer à réfléchir à un projet d'une cinquantaine de logements potentiellement à faire en bois.
Donc ossature bois,
totalité.
Bon, bah écoutez, à la clé peut-être quelques belles réalisations. Je retiens quand même que vous souhaitez développer à l'international encore plus. Parmi nos auditeurs, peut-être certains auront envie de regarder votre site et de voir de quelle manière justement vous développez surtout des locaux d'activité et bureaux. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Merci à vous et
merci
à bientôt
à
sur nos antennes.
Hein. À bientôt.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.